de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à toutes et à tous, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, voici le bulletin de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Les crimes aux Philippines ont diminué depuis le verrouillage. Selon Charles Honori, l'invocation de l'ambassadeur de Chine doit discuter des violations des droits humains. 17 897 tonnes d'huile de noix de coco provenant du copra de Sulawesi du Nord ont été exportées aux Pays-Bas. Via Internet, les investisseurs russes proposent des investissements dans le traitement des déchets. Voici le bulletin complet. La police nationale des Philippines, PNP, a déclaré que la criminalité avait diminué de 34,45% aux Philippines lorsque le verrouillage a été appliqué dans le pays. Le chef de la police nationale philippine, Archie Gamboa, aurait déclaré vendredi à Xinhua, le 8 mai, que la criminalité avait diminué en raison de la coopération et du bon soutien du public. Les données sur la criminalité du PNP montrent que le volume total de la criminalité nationale a chuté 34,45% de 58 705 cas. Les données ont été enregistrées du 1er février au mars, alors que du 17 mars au 30 avril, les données ont montré une baisse à 38 484. Gamboa a également déclaré que les données de la police montrent également que les délits graves n'atteignaient que 8,8% du volume total des délits. Les données ont diminué à 60,49%, de sorte que les cas ne sont plus que 2669 cas. Le porte-parole de la police nationale, le brigadier général Bernard Banak, a déclaré que le taux de criminalité était faible car il n'y avait pas eu de mouvement de personnes pendant l'isolement. Le membre de la commission 1 de la Chambre des représentants indonésienne, Charles Honoris, a rappelé que la convocation de l'ambassadeur de Chine doit venir à la discussion des allégations de violation des droits de l'homme contre des citoyens indonésiens qui sont devenus membres d'équipage ABK de la société chinoise. Charles Honoris, dans une déclaration écrite à Jakarta vendredi, a déclaré que le plan du ministère des Affaires étrangères de demander à l'ambassadeur de Chine de demander des éclaircissements sur la mort et la dissolution des restes des citoyens indonésiens de l'ABK à Long Sing était correct. Mais il a dit que la clarification ne devrait pas être simplement une procédure diplomatique, mais devrait aller au cœur du problème. Selon Charles, le gouvernement de la République d'Indonésie doit exhorter le gouvernement chinois à appliquer les normes de protection du travail et des droits de l'homme conformément aux normes universelles. En outre, le gouvernement chinois doit enquêter de manière approfondie et imposer des sanctions légales à l'armateur et éradiquer d'autres pratiques similaires. La province Sulawesi Nord a exporté 17 897 tonnes d'huile de coco brut aux Pays-Bas au premier trimestre de 2020. Le chef du bureau du commerce extérieur de l'industrie et du commerce de Sulawesi Nord, Darwin Mukdin, à Manado a déclaré vendredi, la demande d'huile de coco brut des Pays-Bas était assez élevée au premier trimestre 2020, malgré la pandémie du virus corona ou COVID-19, mais cela n'a pas influencé le pays à acheter d'huile de coco brut à Sulawesi Nord. Darwin a déclaré que 17 897 tonnes d'huile de coco brut ont été en mesure de générer des devises pour le pays de 13,59 millions de dollars américains. Il a déclaré que l'huile de coco brut provenait du copra des agriculteurs qui était transformée par l'usine en produits semi-finis, puis exportée. Le marché d'exportation d'huile de coco brut à Sulawesi Nord, plus d'un pays, outre que les Pays-Bas, il existe d'autres destinations de marché d'exportation, à savoir la Malaisie, les États-Unis, la Chine et plusieurs pays européens. L'investisseur russe Vladimir, à travers une conférence virtuelle avec le gouverneur des îles Banka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, a proposé d'investir dans le traitement des déchets en énergie pour surmonter le problème des déchets à Banka Belitung. Vendredi à Pangkal Pinang, Erzaldi Rosman Johan a déclaré qu'il saluait l'offre de surmonter ces déchets en énergie, mais il a été suggéré que les investisseurs russes discutent de cette collaboration avec la compagnie d'électricité d'État, PLN. Il a déclaré dans une brève présentation que le futur investisseur russe domicilié à Singapour a déclaré que la méthode à utiliser pour collecter les déchets de manière plus efficace consiste à utiliser la technologie numérique. Par conséquent, cet investisseur potentiel veut s'assurer que tous les sites d'élimination finale TPA dans la province des îles Banka Belitung, à partir des camions à ordures, ramassent les déchets jusqu'à leur destination finale en utilisant le mouvement Global Positioning System, GPS. Cher ami, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie, Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Surabaya, Jawaese. Le gouvernement de la ville Surabaya a créé la forteresse de Kedung Coek, située sur la rue Kedung Coek Bulak Surabaya, Jawa Oriental, en tant qu'édifice du patrimoine culturel. Le chef du bureau de la culture et du tourisme de la ville Surabaya, Antik Sugiyarti, à l'hôtel de ville de Surabaya a déclaré mercredi qu'avant que la forteresse Kedung Coek ne soit désignée comme un édifice du patrimoine culturel, elle et l'équipe d'experts du patrimoine culturel avaient mené diverses fouilles de données et études pour soutenir cela. La forteresse Kedung Coek est un héritage du gouvernement néerlandais des Indes orientales. La forteresse Kedung Coek a été conçue en 1899 et a commencé à être construite en 1910. La communauté environnante l'a appelé un bâtiment à balles car ce fort était un endroit pour stocker des balles à l'époque coloniale. Le but initial de la construction du fort Kedung Choe était de défendre les Pays-Bas contre le Japon pendant la guerre du Pacifique. Les Hollandais ont préparé de gros canons derrière le béton fortifié qui avait été construit de manière très solide et épaisse. Ensuite, l'enfant de Magellan, Java Central. Le jour du Vesak pour la communauté bouddhiste cette année tombe le 7 mai. Mais cette année, les bouddhistes en Indonésie n'ont pas organisé de célébration Vesak dans les temples Mendut ou Borobudur, Java Central, pour empêcher la transmission d'un nouveau type de virus corona, COVID-19. Le secrétaire du temple Mendut, Wahyu Utomo, à Magellan a déclaré mercredi que la célébration Vesak au temple était limitée à certaines personnes. Il a appelé les bouddhistes à ne pas célébrer Vesak dans le monastère pour éviter le surpeuplement, mais plutôt à le célébrer chez eux. La dernière info est venue des Moluques. Les services de transport maritime dans l'est de l'Indonésie restent une priorité du gouvernement même si le pays est dans la pandémie de COVID-19. La présence de navires à péage maritime qui sont des navires subventionnés par le gouvernement est très attendue par la population de l'est de l'Indonésie, comme l'arrivée des navires à péage KM Kendaga Nusantara 8 arrivé le mardi 5 mai dernier au port Elat, district Kei Besar, région Moluques du sud-est, province Moluques. Le navire est prêt à exploiter 26 routes à péage maritime avec un réseau de routes à travers l'Indonésie. Le directeur du trafic et des transports maritimes, Wisnu Handoko, mercredi a déclaré que son parti espérait que la présence de ce navire à péage maritime pourrait être un moyen pour les habitants de Papouasie et de Moluques qui pourraient être utilisés pour répondre aux besoins de la communauté, aux besoins fondamentaux et importants, aux produits des petites et moyennes entreprises PME, aux produits agricoles, aux produits de plantation, produits de la pêche, produits industriels et produits miniers. Wisnu Handoko garantit, malgré la pandémie COVID-19, que le gouvernement continuera d'être présent afin que les services de transport maritime continuent de fonctionner normalement. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement assassinat d'Aldo Moro. Le cadavre d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne italienne, est retrouvé à Rome dans le coffre d'une voiture. L'ancien premier ministre et candidat à la présidence de la République a été enlevé le 6 mars par le groupe terroriste d'extrême gauche, les Brigades Rouges. Celui-ci réclamait la libération de 13 prisonniers. La police italienne, grâce aux dénonciations de militants repentis, parviendra à arrêter de nombreux brigadistes dont les activités cesseront dans les années 80. L'autre information est sur Nelson Mandela, élu président d'Afrique du Sud le 9 mai 1994. Le 9 mai 1994, Nelson Mandela a été officiellement assermenté comme premier président noir dans son pays, l'Afrique du Sud, ainsi démolir la politique d'apartheid qui favorise les Blancs. F.W. de Klerk a été nommé vice-président et le gouvernement d'unité nationale multiracial a été formé. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Sukhoi Superjet 100 s'est écrasé sur le Mont Salak à Bogor, Java West, le 9 mai 2012. Il s'est écrasé lors d'un vol de démonstration ou joyflight. Sukhoi Superjet sang avion a décollé de l'aéroport Halim à Jakarta à 14h12 en transportant 45 personnes. Mais peu de temps après, l'avion a disparu des écrans radars à une altitude de 1900 mètres. Enfin, le 10 mai 2012, les pilotes Sukhoi Superjet 100 ont été vus dans les falaises du Mont Salak à Bogor. Sukhoi Superjet 100 avion s'est écrasé sur une falaise rocheuse sur le Mont Salak. Le crash de l'avion a fait 45 passagers sont morts. Sur la base des résultats d'une enquête du comité de la sécurité NTSC, Sukhoi Superjet, l'accident de Sukhoi Superjet dû à une erreur humaine. Serviteur, c'est à l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Engkau bagai melodi yang selalu mengalun indah. Engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain kamu yang aku cinta. Selalu ada, berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku. Mungkin ku tak selalu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang lain selain cinta. Saat ku kuat dan jatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkanku.
C'était la première chanson indonésienne. J'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. La rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous. Voici mon Indonésie et un petit titre. Pour maintenir la sécurité alimentaire, le ministère des entreprises d'État aide PT Pupuk Indonesia à maintenir sa production. Le ministère des entreprises d'État, BUMN, soutient PT Pupuk Indonesia Persero en tant que société holding des sociétés d'engrais d'État pour maintenir la disponibilité d'engrais subventionnés pour les agriculteurs avant la deuxième saison de plantation en mai et juin. Le personnel spécial du ministre des entreprises d'État, Arya Sinulinga, a déclaré mercredi dans un communiqué de presse qu'il avait demandé que les activités de production et de distribution d'engrais menées par PT Pupuk Indonesia et leurs filiales continuent de se dérouler sans heurts afin de maintenir la sécurité alimentaire de l'Indonésie au milieu de la pandémie de COVID-19. Arya a estimé qu'il était important pour les entreprises d'État de garantir la disponibilité d'engrais subventionnés afin que les agriculteurs restent productifs en produisant des aliments qui pourraient être appréciés par l'ensemble de la communauté. La bonne distribution et la disponibilité des engrais subventionnés jouent un rôle dans la réalisation de la sécurité alimentaire pendant la pandémie. Le directeur général de PT Pupuk Indonesia Persero, Aas Asikin Idat, a indiqué que le stock d'engrais subventionnés préparé au niveau du kiosque était de 1,27 million de tonnes. Les types d'engrais disponibles comprennent l'urée, le NPK, le SP36, le ZA et les engrais organiques. La disponibilité de ces stocks est plus que suffisante par rapport au stock minimum à préparer qui est d'environ 285 000 tonnes ou suffisant pour les besoins de 2 semaines. Outre les besoins antérieurs, PT Pupuk Indonesia Persero a également enregistré des performances à l'exportation de produits fertilisants et non fertilisants avec un volume de plus de 800 000 tonnes jusqu'au 7 avril. Aas Asikin garantit que les exportations ne peuvent être effectuées que si les besoins antérieurs ont été satisfaits, en particulier pour le secteur des aliments et des engrais subventionnés. Selon Aas Asikin, les producteurs d'engrais continuent autant que possible d'exporter pour stimuler la croissance économique nationale, en contribuant aux devises du pays et en renforçant la valeur du rupiah, mais en continuant à donner la priorité à la livraison d'engrais nationaux. Les produits exportés comprennent fluorure d'aluminium, l'ammoniac, le NPK et les engrais à base d'urée. Selon Aas, les résultats à l'exportation ont augmenté par rapport à l'année dernière. C'est parce que la forte demande d'engrais et de produits non fertilisants sur le marché international. La plus grande destination d'exportation d'engrais indonésiens est dominée par des pays asiatiques, tels que les Philippines, le Vietnam, le Japon, l'Inde, la Thaïlande, Taïwan, Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et la Chine. Outre l'Asie, l'Australie, les États-Unis, le Mexique, le Chili, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Égypte sont toujours des destinations d'exportation avec une demande considérable de produits à basse durée. Cher ami, c'était mon Indonésie.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Thank you. sakit di hatimu. Meski bukan maksudku untuk lukai perasaan, kasih maafkanlah,
kasih maafkanlah,
dan jangan kau membisu karena kesalahanku. Egoanku, berikan ku kesempatan,
berikan ku kesempatan
untuk perbaiki semua karena ku hanya
kesalahanku, keegoanku, berikan ku kesempatan untuk perbaiki semua karena ku hanya ingin membuatmu bahagia.
Kasih maafkanlah,
kasih maafkanlah,
dan jangan kau membisu karena kesalahan.
Bon, chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz, 4750 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Bonsoir à tous, voici le magazine culturel. Ce soir, nous vous inviterons à profiter des délices de Naniura, de Tapanuli, au nord de Sumatra. Naniura est connue comme sushi du peuple de Sumatra Nord. Cette nourriture provient de Tapanuli, la région autour du lac Toba. Naniura est l'une des spécialités de Batak, qui est célèbre pour ses poissons qui ne sont pas cuits, mais seulement assaisonnés. Dans la langue Batak, Naniura est un poisson acidifié. Mais même ainsi, le poisson peut être mangé, car la marinade acide peut éliminer l'odeur fétide du poisson cru. Dans les temps anciens, cette cuisine de Tapanuli était consacrée au roi, dont le roi Sisinga Mangaraja. Par conséquent, seules les cuisines royaux peuvent cuisiner Naniura. Mais avec le temps et en raison de son goût très unique, presque tous les Batak peuvent déjà le cuisiner. Même aujourd'hui, en raison de son épice distinctif, Andaliman, qui est une authentique épice de Batak, De nombreux touristes nationaux et étrangers recherchent cette cuisine indigène Tapanuli lorsqu'ils visitent plusieurs régions à Sumatra Nord. Le goût du poisson fait d'être naniura est très amer sur la langue. Les épices sont épicées et chaudes sur les lèvres, surtout si naniura est mangée avec quelques boissons gazeuses ou des boissons alcoolisées comme le vin de palme à base de jus. Vous vous sentirez très satisfait si naniura est faite comme tambul, qui est une collation en buvant du vin. Le goût sucré du poisson ainsi que le goût épicé est le plaisir des épices, ainsi que le goût amer de l'andaliman peuvent rendre le bout de la langue comme une piqûre. Naniura se trouve à plusieurs endroits dans Sumatra Nord, en particulier dans les sites touristiques au bord du lac Toba. Il y a même un restaurant qui permet aux visiteurs de voir comment le processus de fabrication de naniura. Cuisiner naniura est en effet un peu compliqué. Le poisson utilisé peut être n'importe quel poisson, comme le poisson rouge, le poisson mujair. Le poisson est mis dans le bain d'acide chunga pendant 4 à 5 heures, ajouté avec d'autres épices telles que le noyer cuit au four, l'ail, l'oignon, le poivre, le gingembre, le curcuma ajouté avec du piment. Pour être doux, le poisson doit être enveloppé. Le tamarin qui sert à faire du poisson cuit n'existe également qu'au nord de Sumatra. L'acide chunga ne peut pas être remplacé par aucun acide car il peut transformer le goût du poisson en amer. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle à notre radio. Au revoir.
Sebelumnya tak percaya aku bisa mencapai puncak dunia. Sebelumnya aku tak percaya aku bisa menggapai bintang-bintang angkasa. Tapi kau selalu ada berikanku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa, kaulah alasan aku bertahan. Untukmu aku persembahkan semua yang terbaik dariku. Oh oh oh, oh. Yang terbaik. Thank you. padamu yang terbaik dariku.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur en formant sur la région du plateau Dieng qui met en place la billetterie électronique. La région du plateau Dieng a mis à jour le système de billetterie. En utilisant un système de billetterie électronique, les visiteurs n'ont pas à se soucier d'acheter les billets directement chez eux. L'application de ce billet électronique est valable pour la visite du complexe du temple Arjuna et du cratère Sikidang. Si à l'heure actuelle, la région du plateau Dieng a mis en place un ticket sous forme de code-barre, l'application de ce système de billetterie électronique peut faciliter la commande de billets pour entrer dans la zone touristique du plateau Dieng, n'importe où et à tout moment. Le gouvernement de la région Banjarnegara Java Central se prépare actuellement à mettre en place un système de billetterie électronique dans la zone touristique du plateau Dieng. Le régent de Banjarnegara, Budi Sarwono, a déclaré que l'application du système de billetterie électronique visait à améliorer les services aux touristes. Le gouvernement de la région Banjarnegara prévoit également d'embellir les installations et infrastructures existantes à Dieng pour accroître l'intérêt touristique. De plus, une aire de repos sera construite dans la zone de la ligne principale de Dieng. Bien entendu, les différents programmes étant mis en œuvre devraient permettre d'augmenter le nombre de visites touristiques à Dieng et d'avoir un bon impact sur la communauté locale. La région de Banjarnegara, Budi Sarwono, estime qu'avec le nombre croissant de touristes qui arrivent, ce sera mieux pour l'économie de ses citoyens. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical et cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Petir, créée par Sariwono. Cette chanson originale de Kroncong raconte quelqu'un qui essaie de tenir une promesse de rencontrer sa petite amie. Bien qu'il pleuve ainsi que la foudre et le vent fort, il a quand même passé car il voulait rencontrer son amant qu'il avait depuis longtemps quitté. Bon, chers auditeurs, voici Mira Tania, dont le titre est Petir ou en français la foudre.
Janji
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Kesenian
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.